Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 12e épisode dans lequel nous allons parler de la pomme de discorde et du jugement de Paris. Aux noces de Pélée et Thétis sur l'Olympe, tous les dieux sont invités, excepté Eris, déesse de la discorde. Pélée, fils d'Éaque, roi d'Égine, et de la nymphe Andéis, fille du centaure Chiron, est roi de Pythie en Thessalie et sera le père d'Achille. La Néréide Thétis est si belle que tous les dieux, et notamment Zeus et Poséidon, la convoitent. Cependant, ils y renoncent car Thémis leur annonce qu'elle donnera naissance à un fils supérieur à son père. Zeus décide alors de laisser Thétis à un mortel afin que la prédiction puisse se réaliser sans lui porter préjudice. Thétis résiste aux avances de Pélée, conseillé par Chiron, en se transformant successivement en oiseau, serpent, lion, poisson, sèche, eau et feu. Mais Pélée réussit à la soumettre et à s'unir à elle. Il faut donc officialiser cette union et organiser un plan de table sur l'Olympe, sans Eris qui fulmine. Pour se venger, elle leur jette une pomme d'or avec la mention « pour la plus belle ». C'est la fameuse pomme de discorde. Les belles, comme Ariane, sont nombreuses. Cependant, il n'y a que trois déesses qui revendiquent le fruit. Héra, Athéna et Aphrodite. Afin de mettre un terme à la dispute, Zeus ordonne à Hermès d'emmener les déesses sur le mont Ida et charge Paris de désigner la gagnante. Le jeune homme accorde finalement le prix à Aphrodite qui lui a promis l'amour de sa bien-aimée. Comme quoi, chez les dieux, comme chez les humains, on n'a rien sans rien. Banale histoire de rivalité féminine, une simple histoire de crépage de chignons qui en fait se termine en conflit mondial. La pomme d'or sur laquelle était marquée « Je suis la plus belle » provenait du jardin des Hespérides. Le jardin des Hespérides, situé à l'extrême occident, était un jardin d'immortalité réservé aux dieux, « no entrance ». Des sources d'ambroisie y coulaient et un arbre fabuleux y donnait des pommes d'or. Ainsi, pour empêcher les mortels de venir dérober les fruits, le jardin était farouchement gardé par Ladon, un dragon à 100 têtes, et par les Hespérides, filles d'Atlas et de Pléionée, police militaire de l'époque. Habituellement, ces nymphes étaient au nombre de trois et passaient leur temps à s'amuser en chantant. On disait aussi qu'elles étaient de fort belles jeunes femmes, mais pour le vérifier, il aurait fallu faire partie du club. Pour elles, pas besoin de se battre pour une pomme, elles les avaient toutes. Mais revenons à notre dispute. Héra, Aphrodite et Athéna, se disputent le fruit qui est offert par Eris. Zeus a demandé à Paris de les départager. Au mont Ida, chacune essaye de faire pencher Paris en sa faveur. Athéna lui promit la réussite, ce qui signifiait devenir un héros très important et en avoir les honneurs qui vont avec. Héra lui proposa la richesse, ce qui signifiait des biens matériels à profusion. Mais malgré ces alléchantes propositions de gloire et de richesse, il désigna Aphrodite qui, elle, lui avait promis l'amour d'Hélène, la femme de Ménélas, qu'il ne connaissait pas, mais dont il avait entendu vanter la grâce. C'est un peu comme si, en feuilletant un magazine, on tombait amoureux d'une vedette de l'actualité, ne sachant rien de la personne. Juste une carrosserie, une ligne aérodynamique. Mais à cette époque, il n'y a pas de paparazzi ni Photoshop pour idéaliser, sous des éclairages calculés, les attraits d'une personne. Nous sommes dans l'imaginaire qui peut également donner des ailes. Et on n'a pas toujours besoin de voir pour aimer ou du moins désirer. Paris a donc choisi l'amour qu'il place au-dessus de tout. Hélène est la plus belle femme de cette époque, intelligente et sensible. Quand elle fut en âge de se marier, de nombreux prétendants souhaitaient sa main et se jetèrent à ses pieds. Elle mit un certain temps à choisir. Il faut dire que choisir un mari n'a aucun rapport avec les sentiments courtois. Plusieurs critères rentrent en jeu. Pour Hélène, ce sera la richesse du prétendant. Elle avait un ami du nom d'Ulysse. Elle lui demanda de protéger, quoi qu'il advienne, le mari qu'elle choisirait. En échange de quoi, il obtiendrait les faveurs de la femme qu'il convoitait, Pénélope. Encore un autre amoureux, sincère et fidèle. Hélène choisit Ménélas, qui devint roi de Sparte. Maintenant qu'Aphrodite a croqué sa pomme à pleines dents, elle va réaliser ce qu'elle a promis. Paris navigue donc jusqu'en Grèce, à Sparte, où il est bien reçu par Ménélas et voit Hélène pour la première fois. Il est subjugué par sa beauté. Il aurait pu être déçu, mais non, ce ne fut pas le cas. Un court instant, leurs regards se fixèrent et le temps s'arrêta. Il passe ainsi une première semaine à découvrir Sparte et ses coutumes. Nous supposerons que cette première semaine ne fit que confirmer l'attirance que les deux êtres avaient involontairement l'un pour l'autre. Inclinaison sûrement favorisée par des flèches d'or tirées à bout portant. Quelques œillades, quelques frôlements, des sourires francs et d'autres gênés, des silences, kélipa, kélipa, kélipa. La semaine d'après, très exactement 9 jours plus tard, Ménélas doit partir en Crète afin d'assister aux funérailles de son grand-père, Catré, qui vient d'être tué par son propre fils. Pendant son absence, il ordonne à Hélène de tout faire pour être agréable à leur invité troyen. Et elle va faire de son mieux. Aphrodite réunit le soir même les deux amants qui s'enfuient dès le lendemain en volant la plupart des richesses de Ménélas. Je pense qu'Aphrodite savait d'avance tout cela. L'amour a des raisons que la raison ne connaît pas. Mais attention, nous ne sommes qu'à la deuxième semaine avec des transports extraordinaires en dehors de toute réalité. Mais comment cacher la disparition au même moment d'Hélène et de Paris ? Iris, messagère cafteuse des dieux et principalement d'Héra, va s'en charger. Elle va informer Ménélas de son infortune. « Salut Ménélas, comment ça se passe ton voyage en Crète ? Toutes mes condoléances. Non, non, pas pour ton grand-père, mais ta femme. » Infortune, quel euphémisme. Pour un homme riche, être cocu est une chose, mais riche et détroussé, en fait, il ne sait comment réagir. Il va demander conseil à son frère. Celui-ci part s'entretenir avec Agamemnon et le sage Nestor et décide à tous trois de réunir tous les chefs achéens, leur rappelant le serment de Tindare pour lancer une vaste expédition militaire contre Troie. Ce que personne ne sait encore, c'est que ce n'est pas là-bas que Paris et Hélène sont partis pour leur lune de miel. Mais le déshonneur pèse sur sa famille. Ménélas part en tournée chez ses alliés pour rassembler le plus grand nombre de guerriers grecs. Certains rois rechignent, tels Ulysse, qui se fait passer pour fou, et Cinyras, qui s'en tire par une astuce. Ulysse a fait un serment à Hélène, nous le savons. Quant à Cinyras, premier roi légendaire de Chypre, fondateur du culte d'Aphrodite à Paphos, il est considéré comme l'introducteur de la civilisation à Chypre. Nous pouvons donc supposer qu'Aphrodite elle-même fit cette requête de neutralité. Pendant ce temps, en Crète, un grand tremblement de terre a affaibli les Minoens et les armées d'Agamemnon ont profité de cette panique pour envahir la Crète. Sept cités crétoises prennent part à la guerre contre Troie, menée par Idoménée et d'autres seigneurs, eux-mêmes directement sous les ordres d'Agamemnon. C'est à cette époque que commença le déboisement de la Crète, car il fallait beaucoup de bois pour construire des navires capables de transporter des armées entières. Les rois grecs mettent le siège devant la cité pendant, écoutez bien, 10 ans. Après avoir vainement assiégé Troie pendant toutes ces années, les Grecs ont l'idée d'une ruse pour prendre la ville. Épéios et Athéna construisent un cheval géant en bois creux dans lequel se cache un groupe de soldats d'élite menés par Ulysse. Puis les Achéens brûlent leur camp, embarquent sur leur navire et dissimulent leur flotte plus loin, derrière l'île de Ténédos. Un espion grec, Sinon, réussit à convaincre les Troyens d'accepter l'offrande malgré les avertissements de Lacone, prêtre de Poséidon et de Cassandre que personne ne croit jamais. Les Troyens découvrent un beau matin, sur la grève désertée, un cheval de bois abandonné par les Achéens, censé être une offrande à Poséidon pour garantir à la flotte grecque un bon retour. Les Troyens se divisent sur le sort du cheval. Certains veulent le faire entrer dans la ville en signe de victoire. D'autres sont d'avis de le brûler. Lacone met obstinément en garde ses compatriotes. « Je crains que les Grecs, même lorsqu'ils apportent des présents, sont des menteurs. » Il lance un javelot au flanc du cheval qui sonne alors creux. Mais nul ne le remarque. On amène alors un esclave grec, Sinon, qui prétend avoir été abandonné là en sacrifice, tout comme le cheval. Comme pour appuyer son récit, deux serpents arrivent de la haute mer alors que Lacone sacrifie à Poséidon. Il se jette sur ses deux fils et les démembre, puis s'attaque à Lacone lui-même, qui tentait en vain de les arrêter. Les serpents se réfugient ensuite dans un temple d'Athéna, se lovant aux pieds de sa statue colossale. Les Troyens pensent alors que c'est la déesse qui se venge de l'outrage fait à une offrande qui lui est consacrée et, rassurés, font entrer le cheval dans leur mur. Le cheval est tiré dans l'enceinte de la cité. Il est lourd, il est très lourd. Et il faut beaucoup de personnes pour le mener jusqu'au milieu de la grande cour. Le siège a été levé et les Troyens fêtent cette victoire. Lorsque les habitants sont pris par la torpeur de l'alcool, au milieu de la nuit, les Grecs sortent du cheval et ouvrent alors ses portes, permettant au reste de l'armée d'entrer à l'intérieur de Troie et de piller la ville. Tous les hommes sont tués. Les femmes et les filles sont emmenées comme esclaves. Les enfants mâles sont tués eux aussi pour éviter une éventuelle vengeance. Aurais-tu imaginé Paris qu'en emportant la belle Hélène, tant de malheurs seraient arrivés? Quant à toi, Athéna, tu pensais que le droit était du côté des Grecs, à qui tu resteras toujours fidèle. Nous allons nous quitter là pour ce soir. La prochaine fois, nous parlerons du rôle de conseillère des héros qu'Athéna joua dans l'histoire. Merci de rester fidèle à ces aventures héroïques et amoureuses de la mythologie grecque. Permettez-moi, avec Athéna, de vous souhaiter une agréable nuit pleine d'aventures romanesques et palpitantes.